VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, bienvenue dans cette édition du lundi 28 décembre 2020. Abdourahmane Dia, la présentation, voici les titres. Élections présidentielles et législatives en Centrafrique sous tension hier. Les rebelles poursuivent leur offensive alors que le pays est dans l'attente des résultats. Au Niger également, on attend les résultats de la présidentielle qui doit marquer la première alternance démocratique à la tête du pays. Le scrutin s'est déroulé sans incident majeur. Le président burkinabé Roch Marc Christian Kabore a été investi ce lundi pour un second mandat. Et ici aux États-Unis, des millions d'Américains pourront bientôt bénéficier d'une assistance du gouvernement après la ratification d'un nouveau plan de relance par le président Donald Trump. Également, dans cette édition du Monde aujourd'hui, l'économie et les sports. Mais tout d'abord, le journal. Après les élections présidentielles et législatives de ce dimanche, la République centrafricaine, qui attend désormais les résultats provisoires, doit encore faire face aux défis sécuritaires. La coalition des groupes armés a occupé entre hier et aujourd'hui plusieurs villes, créant la panique au sein de la population. À Bangui, pour VOA Afrique, Freeman Sipila.
Même si, contre toute attente, les élections puissent se tenir sur une partie du territoire centrafricain, la tension sécuritaire y demeure très préoccupante. En effet, aucun combat n'a officiellement été signalé ces dernières 48 heures entre forces régulières et rebelles, mais certaines villes de l'intérieur du pays sont passées sans affrontement sous le contrôle de la coalition des groupes armés. C'est le cas par exemple de Karno, occupé dimanche en début de soirée par les rebelles du 3R. Ces hommes armés, après avoir tiré en l'air, ont saisi les bulletins de vote ainsi que tout le matériel électoral avant de les incendier. Cette présence d'hommes armés a fait fuir une bonne partie de la population de cette localité en brousse. Ce lundi matin, la présence des rebelles était signalée à Baoro, à quelques 300 km dans le nord-ouest de Bangui. Plusieurs cas de pillage de bâtiments publics et de bases des ONG humanitaires ont été rapportés dans la ville de Boar. À Bangui, les autorités et la MINUSCA se félicitent du déroulement des élections et rassurent que des mesures sont en cours pour faire face aux défis sécuritaires et empêcher les groupes armés d'atteindre la capitale. Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
Au Niger, les premiers résultats du double scrutin d'hier ont commencé à être diffusés par la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Des résultats qui ne permettent pas cependant d'avoir des tendances en faveur de l'un des 30 candidats en lice pour remplacer le président sortant, Mouamadou Issoufou, qui a bouclé son second et dernier mandat. Le point avec notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
À 16h GMT encore, aucun résultat n'a été diffusé par la CENI, seule habilitée à les proclamer selon la loi électorale du Niger. Elle a toutefois installé son quartier général au niveau du palais des congrès où journalistes et autres observateurs attendent encore. Plusieurs missions d'observation ont reprogrammé leurs déclarations préliminaires initialement prévues ce lundi. Au niveau des quartiers généraux des candidats, c'est également le calme. La direction de campagne du candidat Mohamed Bazoum n'a pas souhaité répondre aux questions de VOA Afrique. L'équipe du candidat Mahamane Ousmane a, elle, salué la bonne tenue du double scrutin et se dit très confiante. Moustapha Barthier.
Il y a eu une amélioration dans l'organisation par rapport à ce qui s'est passé pendant les locales. Aujourd'hui, nous avons des résultats qui sont au-delà même de nos espérances, telles que les choses se dessinent. Dans les pires des cas, nous, en ce qui nous concerne, on va nous amener au deuxième tour. Sinon, nous pensons plier l'affaire dès le premier tour.
La proclamation des résultats globaux provisoires va prendre des jours. Au total, près de 7 500 000 électeurs ont été inscrits sur les listes électorales et répartis dans près de 26 000 bureaux de vote sur un territoire vaste de 1 267 000 km². Abdulrazak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
Le président Roch Kabore du Burkina Faso promet de ramener la sécurité et la stabilité dans ce pays d'Afrique de l'Ouest en proie à des attaques djihadistes. C'était ce matin lors de son discours d'investiture après sa réélection à l'issue du scrutin du 22 novembre. Le point avec Eric Manerekiza.
J'entends gagner le pari de la sécurité et de la stabilité de notre pays et assurer le retour des déplacés, a déclaré M. Kabore après avoir prêté serment au palais des sports de Ouaga 2000 devant 10 chefs d'État africains et 1200 invités. Le président Kaboré a reconnu que les 5 dernières années, les actions terroristes ont mis à mal ses efforts de développement, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Il a donc promis de travailler à la réconciliation nationale. Je lancerai dans les mois à venir de larges consultations afin de définir les voies d'une réconciliation nationale véritable, a-t-il annoncé. Roch Kaboré a précisé vouloir prendre en compte les crimes de sang économiques et politiques qui, de 1960 à nos jours, continuent d'envenimer les rapports entre les Burkinabés. Plusieurs candidats de l'opposition, dont son désormais chef de file Eddy Kombouigo, dirigeant de l'ex-parti au pouvoir de Blaise Compaoré, qui avait dénoncé un scrutin entaché d'irrégularité, avant de féliciter le président Kaboré pour sa réélection, ont assisté à la cérémonie d'investiture.
La justice malienne a annoncé ce lundi l'ouverture d'une enquête pour atteinte à la sûreté de l'État, 4 mois après le putsch qui a renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta. L'activiste et animateur Radio Rasbat, un demi-frère de l'ex-premier ministre Boubou Cissé, Agui Boutal, ou encore le secrétaire général de la présidence Sékou Traoré, figurent sur cette liste de personnes visées par l'enquête. Boubou Cissé, dernier premier ministre du président Ibrahim Boubacar Keïta, avait formellement démenti le 23 décembre toute implication dans un projet de déstabilisation des institutions de la transition, censé ramener les civils au pouvoir en 18 mois. Les autorités soudanaises ont annoncé le déploiement d'un important contingent militaire dans le sud du Darfour après des affrontements intercommunautaires qui ont fait 15 morts. Selon l'agence de presse Sunna, le gouverneur de l'État du Darfour Sud a annoncé le déploiement en grand nombre de forces militaires afin d'arrêter les personnes impliquées dans les affrontements et de collecter les armes. Ces incidents surviennent à quelques jours de la fin de la mission de paix conjointe de l'ONU et de l'Union africaine au Darfour le 31 décembre.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président Donald Trump a finalement ratifié dimanche soir, après des jours de résistance et sous la pression des parlementaires de tous bords politiques, le nouveau plan de relance économique de 900 milliards de dollars adopté lundi au forceps par le Congrès. Ce revirement de Donald Trump a suscité quelques réactions au Congrès. Les précisions de John Lindon.
Je ratifie cette législation pour restaurer les allocations chômage, arrêter les expulsions locatives, apporter de l'assistance aux bailleurs, ajouter des fonds supplémentaires au programme de prêts aux entreprises, permettre aux employés de l'aérien de retourner au travail et donner des fonds substantiels en plus pour la distribution des vaccins, a expliqué M. Trump dans un communiqué. Ce revirement intervient après une journée marquée par des appels de tous bords politiques, l'incitant à agir pour éviter un désastre économique et social, notamment pour les populations les plus vulnérables, alors que des allocations chômage pour des millions de chômeurs ont expiré samedi à minuit. Je suis content de savoir que les Américains vont recevoir une assistance plus que nécessaire alors que notre pays continue de lutter contre la pandémie, a salué dimanche soir Mitch McConnell, le chef de file des sénateurs républicains. Les Américains ont besoin d'une aide d'urgence, avait enjoint un peu plus tôt sur Twitter l'influent sénateur républicain Mitt Romney. Ces aides sont cruciales et constituent la seule bouée de sauvetage pouvant permettre d'éviter à des millions de familles de tomber dans la pauvreté, soutient pour sa part André Stettner de The Century Foundation.
L'Iran réagit après des informations sur le déplacement d'un sous-marin israélien vers la région. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères met en garde contre toute menace à la sécurité de son pays. Saïd Khatizadar a également souligné que son pays se défendra contre toute aventure américaine durant les derniers jours du président Donald Trump à la Maison-Blanche. Ces déclarations interviennent une semaine après l'annonce par l'US Navy que son sous-marin nucléaire avait emprunté le détroit d'Ormuz. Des médias israéliens ont ensuite rapporté qu'un sous-marin israélien en route vers le Golfe avait traversé le canal de Suez, information que l'État hébreu n'a ni confirmée ni démentie. En Arabie Saoudite, une militante des droits humains a été condamnée ce lundi à 5 ans et 8 mois de prison en vertu d'une loi antiterroriste, une peine assortie d'un sursis. Loujain Al-Khailoul pourrait donc être libéré dans quelques mois, selon sa famille. En Chine, une journaliste citoyenne qui avait couvert l'épidémie de COVID-19 à Wuhan a été condamnée ce lundi à 4 ans de prison. Zhang Zhang a paru très abattu quand le jugement a été annoncé, a déclaré l'un de ses avocats, se disant très inquiet pour son état psychologique. Originaire de Shanghai, elle s'est rendue en février à Wuhan, alors en proie à l'épidémie, diffusant sur Internet des reportages, notamment sur la situation chaotique des hôpitaux. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, c'est dans la Minute Éco présentée ce soir par John Lindon.
Pas moins de 8 prestataires de services de paiement du Nigeria se sont vus retirer leur agrément par la Banque centrale du pays pour incapacité à satisfaire aux exigences de capital et non-respect du cahier des charges. Prise depuis le 30 novembre 2020, cette décision est effective depuis le 24 décembre, souligne l'institution. Le Tchad et le groupe français Somdia ont signé un mémorandum d'entente pour la réalisation d'un projet sucrier d'une capacité annuelle de plus de 170 000 tonnes destiné à couvrir le marché local et sous-régional, fait savoir Financial Afrique. Déjà présent dans ce pays à travers la compagnie sucrière du Tchad, le groupe Somdia est spécialisé dans l'agroalimentaire et est promoteur de plusieurs filiales en Afrique. Si le coût de ce projet n'a pas été révélé, l'on annonce le début des travaux pour 2021. La BEAC, Banque des États de l'Afrique centrale, indique dans son rapport de politique monétaire avoir noté une contraction des économies de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale à cause de la crise sanitaire liée au coronavirus qui a entraîné une récession. Pour ces économies qui reposent essentiellement sur le pétrole, la dépréciation des cours du brut sur le marché international suite à la crise du COVID-19 a entraîné une contraction de l'économie de 2,9% au cours de l'année 2020.
À présent, la page des sports avec Yacouba Traoré. Bonsoir.
Bonsoir à tous. La Tunisie est le dernier pays qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. Grâce à une réalisation de Chibé Labidi, les Aiglons de Carthage ont dominé la Libye sous la marque de 1-0 et arraché le dernier billet qualificatif de cette CAN des juniors. En plus de la Tunisie, sont aussi qualifiés le Maroc, la Tanzanie, l'Ouganda, la Namibie, le Mozambique, la Centrafrique, le Cameroun, le Ghana, le Burkina Faso, la Gambie et le pays hôte, la Mauritanie. Pour rappel, la phase finale de cette compétition aura lieu du 14 février au 4 mars 2021. La formation égyptienne d'Al Ahly a été élue club le plus couronné des championnats de football du Moyen-Orient de 2001 à 2021. Ce fut à l'occasion des Globe Soccer Awards qui ont eu lieu à Dubaï le week-end dernier. Fondé en avril 1907, Al Ahly a remporté 38 trophées depuis 2001, dont 13 titres de champion d'Égypte, 6 coupes d'Égypte, 11 Supercoupes d'Égypte, 7 Ligues des champions CAF, 6 Supercoupes CAF et une Coupe de la Confédération. Les Globe Soccer Awards ont lieu annuellement et sont organisés par l'Association européenne des clubs et l'Association européenne des agents de joueurs. Ils récompensent les meilleurs joueurs, clubs, entraîneurs et agents du siècle de l'année en cours. Je n'ai rien décidé, ce sont les mots de Lionel Messi qui souhaitait cet été quitter le club de Barcelone alors que s'ouvre ce week-end le mercato d'hiver. Je ne sais pas encore, au jour d'aujourd'hui, je suis concentré, je ne pense pas à comment la saison va se terminer, a déclaré le septuple Ballon d'Or. Le contrat de la Pulga expire le 30 juillet 2021, le laissant libre de négocier avec d'autres clubs dès le 1er janvier un éventuel départ l'été prochain. Le Barça a connu des débuts difficiles cette saison et pointe seulement à la 5e place de la Liga, à 8 points du leader l'Atlético Madrid après 15 journées. Fin août, Lionel Messi avait dit qu'il souhaitait quitter le FC Barcelone, mais contraint par son contrat et par le président Joseph Maria Bartomeu, qui a depuis démissionné, il a dû rester. NBA, pour finir, les Los Angeles Lakers ont passé une soirée tranquille contre les Minnesota Timberwolves, 127 à 91 par contre. Claque historique pour l'autre club de Los Angeles, mené de 50 points à la mi-temps. du jamais vu dans l'histoire de la NBA. Les Clippers se sont fait balayer 124-73 par les Dallas Mavericks. Les Golden State Warriors ont décroché leur première victoire de la saison sur le parquet de Chicago, 129-128. Les Brooklyn Nets ont subi leur premier revers de la saison à Charlotte, 106-104. Indiana a battu Boston, 108-107. 118-94 pour Cleveland devant Philadelphie, et Orlando a pris le dessus sur les Washington Wizards, 120-113.
Merci Akuba. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Abdourahmane Dia toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. Au Tchad, pour faire face à l'insécurité causée par la détention illégale des armes de guerre, une commission mixte de désarmement a été mise sur pied par le gouvernement. La commission a un délai de 2 mois pour sillonner les 23 provinces afin de désarmer de gré ou de force les citoyens détenteurs illégaux d'armes. Des armes à feu qui font de nombreuses victimes dans des conflits intercommunautaires dans certaines provinces du pays. André Kolmajingar, correspondant de VOA Afrique, fait le point depuis N'Djamena.
Depuis toujours, le gouvernement appelle au désarmement pacifique, invitant les citoyens qui détiennent illégalement d'armes à les restituer. Et donc, cette fois-ci, il entend mener une opération bien musculée. Il ne s'agit pas à la commission de désarmement, mais aussi d'arrêter et faire traduire en justice tous les détenteurs illégaux d'armes, a insisté Kalzebe Paimi Debo, coordonnateur de l'action gouvernementale. Mais l'annonce suscite des réactions de sceptiques tels l'Aldjim Narcisse Mbainadi, journaliste et analyste politique.
Par le passé, il y avait eu plusieurs commissions qui ont été mises sur pied pour désarmer certaines populations qui détiennent des armes à feu. Mais on n'a jamais vu le résultat. Donc, c'est pas cette commission-là qui va trouver une solution.
Tout en appréciant les objectifs pour lesquels la commission a été créée, le coordonnateur de tournant la page section du Tchad, Bemadjibé Ngarassal Jacques, mesure déjà la tâche qui attend les membres de cette commission.
Même des individus dans le quartier aujourd'hui détiennent des armes et ils montrent à tout le monde que personne ne pourra arracher leurs armes. Est-ce que cette commission sera aussi en mesure d'arracher une arme à un individu très puissant? Nous, ce que nous attendons de cette commission, il ne faudrait pas qu'une province soit visée au détriment d'autres provinces. Et c'est quelque chose qui ne serait pas facile parce que l'étendue du territoire tchadien n'est pas facile à être désarmé. Pour que la commission puisse atteindre ses objectifs, il faut utiliser aussi d'autres stratégies pour pouvoir l'atteindre. Mais ça ne serait pas une tâche facile pour cette commission.
Kalzebe Paimi Debo, coordonnateur de l'action gouvernementale, précise que le désarmement doit se faire avec impartialité et professionnalisme, dans le respect de la loi en vigueur. Pour éradiquer ce phénomène, il faut s'asseoir avec les acteurs et dialoguer afin de trouver une solution définitive, a déclaré à VOA Afrique Mohamed Ahmad Younous, coordonnateur du réseau national de volontaires au Tchad.
Ce que l'État a fait, c'est une partie. C'est pas ça qui devrait régler le problème. Donc, ce que nous proposons comme solution pour pouvoir organiser un forum national. Et à l'issue de cette forum, nous allons trouver les causes et propositions de solutions. Une solution durable. Il n'y a pas un développement sans paix.
Pour l'Aldjim Narcisse Mbainadi, journaliste et analyste politique, le vrai problème est ailleurs.
Le gouvernement ne voudrait pas nommer les administrateurs formés. Ceux-là, ils peuvent gérer ce qu'on appelle l'intérêt commun. Mais depuis un certain temps, c'est le clientélisme, c'est le népotisme. Et ces gens ne disposent aucun pedigree administratif pour gérer les gens. Et non seulement ça, mais il y a des responsables militaires qui sont des éleveurs. Et c'est ceux-là qui arment aussi les bouviers. Et ces bouviers-là agissent comme s'ils sont sur un terrain conquis. Il faut que le président de la République prenne ses responsabilités.
La mise en place de cette commission fait suite à l'interpellation du président de la République par les évêques du Tchad dans leur traditionnel message de Noël. Vu l'ampleur de la situation, le prélat invite le président Déby à s'investir avec la même colère de Bouma qui lui a permis d'anéantir les éléments de la secte Boko Haram pour mettre fin à ce phénomène qui endeuille les familles tchadiennes. André Kodumadjingar N'Djamena pour VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Au Cameroun, le gouvernement entend faire aboutir le processus de réforme foncière. Les organisations de la société civile applaudissent car la dernière grande réforme foncière du pays date de 1974. Plus d'une centaine d'acteurs du foncier viennent de publier leurs propositions pour enrichir la nouvelle réforme. De Yaoundé, la correspondance d'Emmanuel Jultap.
Le document est intitulé « Note de politique foncière de la société civile ». Il a été présenté aux députés au cours d'une session de dialogue Parlement-Gouvernement. La note contient 8 propositions émanant des chefs traditionnels, des représentants des peuples autochtones, des femmes et des jeunes des 10 régions du pays intéressés par la gestion de la terre.
On propose qu'il y ait des cadres de dialogue au niveau local, au niveau de chaque arrondissement.
Samuel Nguifo a coordonné la rédaction de la note de politique foncière de la société civile.
Des cadres de dialogue qui rassemblent tous les acteurs et qui discutent régulièrement des questions foncières. On saura à ce moment-là, très rapidement, s'il y a quelqu'un qui est en train d'acquérir des droits. Et ceux qui ne sont pas d'accord pourront immédiatement en parler.
Les députés camerounais ont apprécié les propositions de la société civile sur la nouvelle gestion du foncier, visant notamment à rétablir la justice sociale pour les peuples autochtones. Romuald Ngono est juriste et expert foncier. Il a contribué à l'élaboration des propositions sur la réforme foncière.
Il faudrait que les modes de règlement traditionnels, aussi bien des peuples autochtones que pour des autres communautés locales, soient reconnus. Cela a pour avantage d'une administration de la justice par les parties elles-mêmes, mais également de limiter le fort contentieux foncier qu'on retrouve aujourd'hui.
85% de la superficie des terres sont non immatriculées au Cameroun et se trouvent en zone rurale. Sans compensation pour les titulaires des droits coutumiers, ces vastes espaces sont cédés pour des grands projets d'investissement et d'infrastructures.
Aujourd'hui, nous pensons qu'il faut adopter un moratoire sur la cession des terres à grande échelle.
Michel Sonkoué, facilitatrice de la stratégie nationale d'engagement au Cameroun, une plateforme pour la gouvernance foncière, centrée sur les personnes démunies et vulnérables.
Nous pensons qu'il faut aborder la question des redevances foncières, revoir comment intégrer davantage les communautés locales dans la gestion même et dans les processus d'attribution des terres.
Pour le gouvernement, la nouvelle réforme foncière vise à faciliter et à protéger les investissements agricoles et industriels au Cameroun. Mais la société civile propose avant toute chose un audit de la propriété foncière. Moïse Mibellom, juriste et coordonnateur d'action pour le développement communautaire.
Est-ce que ces concessions sont toujours dans les surfaces qui leur avaient été attribuées par arrêté présidentiel? Est-ce que ces concessions, ce qu'elles payent, correspondent aux défis de l'heure?
La société civile a également proposé la reconnaissance des droits fonciers des femmes dans le cadre d'un régime coutumier collectif encadré localement. Suivant les principes coutumiers, selon les statistiques du ministère de la Justice, la plupart des affaires traitées devant les tribunaux portent sur le foncier. Emmanuel Junta, Yaoundé, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Au Sénégal, la plage de Barni, située à 25 km de Dakar, était envahie par les déchets de tout genre depuis de nombreux mois. Pour y remédier, des jeunes engagés autour de l'artiste et activiste Medza ont décidé de nettoyer ce littoral qui est devenu, selon eux, une décharge à ciel ouvert. Cette action citoyenne a pour but d'assainir un endroit qui concentre la majorité des activités de cette localité de pêcheurs. De notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay.
Le club de réflexion et d'action citoyenne, c'est l'entité autour de laquelle des jeunes de Barni et environ se sont retrouvés pour poser des actions citoyennes afin d'améliorer le cadre de vie de cette communauté de pêcheurs. Medundoy, dit Medza, explique les causes de leur engagement.
Le littoral barnois, c'est devenu une catastrophe. C'était une bombe à ciel ouvert, quoi. Bombe écologique, en quelque sorte. Vous savez, au Sénégal, il y a un problème de gestion des déchets. Barni aussi subit un manque de criards, aussi de canalisation. Et nous avons accentué dans notre combat, il faut qu'il y ait une canalisation. Au début aussi, vous savez, les femmes n'ont pas où déverser leurs ordures. Et ce qui pose problème, les femmes n'ont pas aussi la culture du triage des ordures. Ça pose problème. Récemment, au niveau de l'association, on a fait une séance de travail avec l'UCG ainsi que la mairie. Mais il faut qu'on insiste à ce que les femmes font le triage des ordures. Et qu'il y ait aussi, la mairie recrute aussi des volontaires qui surveillent ça. Je crois, en premier lieu, ça peut faire l'affaire en quelque sorte.
Pendant 48 heures, des dizaines de jeunes se sont mobilisés pour nettoyer le littoral et assainir le cadre de vie de cette localité composée majoritairement de pêcheurs. Pape Moussa Gueye est un bénévole originaire de la localité. Pour lui, les enfants de Barni doivent être les premiers sur le terrain, car ce littoral concentre leurs principales ressources.
Chacun de nous doit accomplir des devoirs sans attendre qui que ce soit. C'est pourquoi on a décidé de nous mobiliser. Nous sommes une communauté composée de 70% de pêcheurs et la mer est notre seule source de revenus. Même sans l'aide de l'État, de la mairie ou de bonne volonté, nous devons nous y mettre parce que nous pêchons. pêchons dans ces eaux. Nos enfants jouent sur cette plage, nos femmes y vont. Donc c'est normal qu'on soit là en tant que jeunes Bargnois, en tant que citoyens.
Au sein des populations, de nombreux jeunes se sont certes engagés à soutenir l'initiative, mais il reste énormément à faire. Medundoy Di Medza se désole du manque d'implication des autorités locales.
Parfois, bon, c'est un peu décourageant. Nous faisons des actions citoyennes, du volontariat. Nous sommes juste une association, mais nos compétences sont limitées. Mais je crois qu'il est très important, si nous voulons de l'impact positif, il faut que la mairie accompagne ces initiatives. De temps en temps, nous faisons des collaborations avec UCG et nous lançons des messages dans des quartiers, une campagne de sensibilisation sur le terrain des ordures. Mais il faut qu'il y ait une mesure d'accompagnement. Mais malheureusement, si nous faisons des actes et que la mairie n'accompagne pas, ça ne va pas aboutir.
Au-delà des activités environnementales marquées par le nettoyage du littoral de Bargny, les jeunes du club de réflexion et d'action citoyenne ont également réfectionné une école de la localité pour un montant de 4 600 000 francs CFA grâce à un financement participatif de 100 francs par habitant. Seydina Abagay à Dakar pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde de Lionel Gaïma, Michel Joseph, Georges Léonard Sagnon et Joselle Morissin. À la présentation, Abdourahmane Dia. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voaafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Les États-Unis continuent de cibler le groupe terroriste Al-Qaïda et ses affiliés meurtriers, y compris Al-Shabaab. Plus récemment, le département d'État a placé les hauts dirigeants d'Al-Shabaab, Abdoulaye Ousmane Mohamed et Malim Ayman, sur la liste des terroristes mondiaux spécialement désignés. Abdoulaye Ousmane Mohamed, également connu sous le nom d'ingénieur Ismaël, est l'expert principal en explosifs d'Al-Shabaab, responsable de la gestion globale des opérations et de la fabrication d'explosifs pour le groupe terroriste. Il est également conseiller spécial du soi-disant émir d'Al-Shabaab et est le chef d'Al-Kateb, l'aile médiatique du groupe. Malim Ayman, lui, est le chef de Jesh Ayman, une unité d'Al-Shabaab menant des attaques et des opérations terroristes au Kenya et en Somalie. Ayman était chargé de préparer l'attaque de janvier 2020 contre le camp Simba à Manda Bay au Kenya et qui a tué un militaire et deux entrepreneurs américains. Al-Shabaab a été désigné comme organisation terroriste en mars 2008 et continue de menacer la paix, la sécurité et la stabilité de la Somalie ainsi que du Kenya. Le secrétaire d'État Mike Pompeo a déclaré dans un communiqué « Les États-Unis se sont engagés à perturber les méthodes de financement illicites d'Al-Shabaab, à limiter sa capacité à mener des nouvelles attaques contre des civils et à aider le gouvernement fédéral de la Somalie à perturber le financement du terrorisme. Cela exigera de travailler en étroite collaboration avec nos partenaires pour dégrader la capacité et les opérations du groupe terroriste en combattant son contrôle et son influence en Afrique de l'Est. » En raison de ces désignations, il est interdit aux citoyens américains de s'engager dans des transactions avec Mohamed et Ayman. Leurs biens et intérêts sous la juridiction des États-Unis sont bloqués. En outre, c'est un crime de fournir sciemment ou de tenter ou de conspirer pour fournir un soutien matériel ou de ressources à Al-Shabaab. Ces désignations font partie d'un effort plus large de lutte contre le terrorisme à l'étranger, a déclaré Nathan Sells, coordinateur de la lutte contre le terrorisme. Nous apporterons tous nos outils à ce combat. Pas seulement les sanctions, mais aussi le partage d'informations, les contre-messages, la lutte contre les voyages et le renforcement des capacités des partenaires pour protéger les cibles vulnérables. Le coordinateur Sells a ajouté que les États-Unis sont prêts à cibler tout groupe terroriste étranger qui menace nos citoyens, nos intérêts à l'étranger ou nos alliés. Nous visons à perturber les menaces terroristes comme Al-Shabaab avec nos désignations et ces actions feront exactement cela.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.